Un rassemblement annoncé demain au Mont d'Or, alors que le sud de la commune est toujours bloqué par voie terrestre. La population pourra se retrouver au Wharf du Vallon d'Or et au lycée du Mont d'Or. Des rendez-vous politiques à Vaud. L'UPM tenait son comité central tandis que l'UC organisait son comité directeur où la présence de la presse n'a pas été souhaitée. La suite du salon des artisans, route de Nouville, avec des visiteurs encore présents ce samedi à la veille de la clôture de l'événement. La K-pop à son jour en Calédonie pour les fans de culture sud-coréenne. Le rendez-vous était donné au Rex de Nouméa. L'actualité internationale, toujours pas de cessez-le-feu malgré les discussions au Moyen-Orient. 900 jours après l'attaque terroriste du 7 octobre, le Hamas refuse de participer au dialogue. Un dîner à l'Élysée pour tenter de trouver un Premier ministre. Emmanuel Macron convie la semaine prochaine les leaders des groupes parlementaires pour essayer de sortir de l'impasse à l'Assemblée nationale. Le sport du football, c'est reparti pour le championnat de France de Ligue 1 avec la victoire du PSG au Havre, 4 buts à 1. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Après plusieurs jours de regains de tension, notamment à Tio et à Poya, la nuit a été plutôt calme sur l'ensemble du territoire. Des tirs à balles réelles ont toutefois été signalés hier contre des gendarmes à Saint-Louis, alors que la RP1 est bloquée au niveau de la tribu depuis maintenant 3 mois. Un blocage qui a de lourdes conséquences pour la population du sud de la commune. Pour interpeller l'État sur cette situation jugée catastrophique, l'association des citoyens mondoriens va manifester demain des deux côtés du verrou. Florent Perrin, le président de l'association.
Vendredi, c'était le 100e jour de blocage de la RP1. Ça a des conséquences énormes sur tout le Mont-d'Or Sud, sur la vie au quotidien, sur les entreprises, sur nos élèves pour le lycée, etc. Donc il fallait qu'on marque le coup parce que ça devient invivable. D'ailleurs, beaucoup de gens s'en vont maintenant à Nouméa, s'installer provisoirement en louant des logements ou en se débrouillant avec les familles. Donc il est temps qu'on revienne à une situation normale. Donc pour marquer le coup, on a décidé de manifester pour nous faire entendre auprès de l'État, notamment pour que la route soit maintenant libre. Et donc on sera au Wharf du Vallon d'Or et en même temps devant le lycée du Mont d'Or à 16h demain dimanche. On voit bien que les forces de l'ordre sur toute la Calédonie progressent, mais alors il y a ce point de Saint-Louis qu'ils n'arrivent pas du tout à régler. On sent qu'il y a une difficulté qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Alors demain, à la manifestation, on sera reçu donc à la gendarmerie déjà de Saint-Michel pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils font et ce qui se passe et quand est-ce qu'ils vont intervenir.
Florent Perrin, le président de l'association des citoyens mondoriens. Notez encore cette réaction après l'incendie qui a touché l'église de Thiers à Poindimié dans la nuit du 13 au 14 août. Dans un communiqué, le conseil pastoral paroissial de Thiers dénonce et condamne fermement cet incendie criminel contre l'église du Sacré-Cœur qui a endommagé la sacristie, l'autel et la petite chapelle. « Cet acte criminel, écrit le président du conseil paroissial Jean-Marie Naboumé, porte atteinte à la liberté de culte et à la mémoire de nos anciens qui ont accueilli la parole de Dieu et œuvré à cet édifice. » Fin de citation. Et puis après ce journal, vous retrouverez le portrait de la semaine sur Radio Rythme Bleu. Un mois après l'incendie de l'église de la mission de Saint-Louis, Gilles Ménage le consacre à Mère Christine, la supérieure de la congrégation des Petites Filles de Marie. Deux rendez-vous politiques dans l'actualité de ce week-end avec d'abord le comité directeur de l'Union calédonienne qui se tient à Vaud, à la tribu de Boyenne. Un comité directeur qui s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un prochain congrès du FLNKS. Notez que la presse, qui avait été invitée à couvrir l'événement, a finalement été refoulée à l'entrée du site à la demande du vice-président de l'UC, Gilbert Thuyénon. À Vaud toujours, mais cette fois à la tribu d'Unjo, c'est le comité central de l'UPM qui se réunissait aujourd'hui, Gilles Ménage.
Le congrès du FLNKS est prévu en principe le 31 août prochain et le comité central de l'UPM devait faire le point aujourd'hui sur l'attitude et la stratégie à adopter après 3 mois d'une crise insurrectionnelle sans précédent. L'UPM qui s'est très vite démarqué de l'Union calédonienne et a redit aujourd'hui sa désapprobation face aux émeutes qui ont secoué le territoire. Victor Tutugoro, le président de l'UPM.
L'UPM redit qu'il ne se reconnaît pas dans les émeutes et les exactions commises depuis le 13 mai dernier sur tout le territoire, que fidèle à l'esprit de la poignée de main et à la stratégie de négociation pour parvenir à l'accession à la pleine souveraineté, parce que nous sommes toujours dans cette orientation politique, le comité central demande en conséquence à ce que le congrès du FLNKS précise la stratégie dans laquelle le FLNKS est aujourd'hui. et qui précise aussi ses prétentions pour les négociations politiques à venir, au mois de septembre. Et donc, le comité central demande au BP du FLNKS que les conditions d'un débat apaisé soient réunies pour l'organisation de ce congrès. Hein, qu'on ne se retrouve pas comme ça a été fait la dernière fois à Nechaot, où il y avait manifestement beaucoup de revendications et ce n'était pas donc à propice à une discussion apaisée.
L'UPM qui veut faire entendre une autre voix également sur le terrain en se mobilisant face à la crise alimentaire véhiculée par les événements.
On a aujourd'hui la malchance d'avoir des usines qui vont fermer, d'avoir des mines qui ne fonctionnent pas, d'avoir une économie à genoux. Mais les besoins restent au niveau alimentaire, hein, déjà. Et donc, le comité central demande à ce que les uns et les autres puissent concrètement s'investir dans l'autosuffisance alimentaire qui est plus que jamais de mise aujourd'hui, pour porter des projets, des organisations sur le terrain, en ce sens que l'engagement qu'on avait sur les mines aujourd'hui puisse se convertir sur le plan agricole, hein, pour continuer à porter ce besoin.
Quant à la montée en puissance de la CCAT créée par l'Union calédonienne et qui revendique aujourd'hui la présidence du FLNKS, l'UPM précise que sa position n'a pas varié sur le sujet et que pour le mouvement indépendantiste, la direction du fonds doit rester collégiale, c'est-à-dire gérée par le bureau politique.
RP 17h52.
Dans le reste de l'actualité, depuis jeudi, le salon des artisans calédoniens se poursuit. Route de nos villes, un nouveau format qui, pour les amateurs de plantes notamment, remplace le salon du jardinage. Il est organisé normalement chaque année au parc des expositions, mais il a été annulé cette année. Les pépiniéristes rattrapent le coup et sont nombreux pour ce long week-end à proposer leurs plantes. Des fidèles acheteurs en profitent pour leur rendre visite. On écoute quelques témoignages.
On va régulièrement en fait au salon du jardinage. Là, on a vu le salon des artisans. Je savais qu'il y avait des plantes, donc je suis venue. Pour les fruitiers surtout, pour le jardin. On fait le potager, on fait... Voilà.
Du coup, qu'est-ce que vous avez acheté ?
Un goyavier. C'est ce que je cherchais depuis un moment, je n'en trouvais pas. Et là, j'ai trouvé mon bonheur.
Oui, je suis déjà allée au salon du jardinage. Il aurait eu lieu, j'y serais allée. Et puis c'est bien qu'on puisse rattraper les choses en venant à celui-là. On découvre toujours des espèces autres et puis on nous explique bien les choses, c'est intéressant.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson. C'est demain que s'achèvera le salon qui se déroule à la Maison des Artisans, route de Nouville. Les visiteurs auront jusqu'à midi pour découvrir ou redécouvrir les 80 exposants calédoniens proposant leurs produits. Le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timothy Massiou, est en visite sur le territoire. Ce matin, il se rendait à Dimbéa sur le site de la ZAC Panda, Charlotte Coulson.
Oui, un projet d'aménagement d'envergure débuté il y a quelques années déjà. Le ministre Papou était accueilli par Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement en charge, entre autres, de la construction, de l'urbanisme et de la transition numérique, ainsi que président de la CECAL. L'occasion pour eux de favoriser la proximité entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi d'échanger sur les différentes innovations technologiques mises en œuvre dans ce projet. On écoute Vaimoa Mouliava.
J'avais proposé, en tant que président de la CECAL, au ministre et puis à sa délégation, qu'ils puissent venir ici regarder l'expertise calédonienne. Aussi l'ingénierie que nous avons pu faire, nous sommes créés en créant la CECAL, qui gère des opérations d'aménagement, mais qui aussi, c'est quelque chose qui tient à cœur, aussi à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en associant ce qu'ils appellent, eux, les landowners, c'est-à-dire les propriétaires terriens, les coutumiers. On va appeler ça comme ça, les coutumiers, mais aussi les propriétaires privés, et puis les institutions. Donc là, une opération d'envergure qui appartient à la province sud, et pour laquelle est associée des entreprises, des privés et les coutumiers. Donc tout ça, ça a sens aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il est ici.
Et sur place était également présent Frédéric Jean, chef de projet à la CECAL pour les opérations de Dimbéa-sur-Mer et Panda. Il nous livre des précisions sur cet aménagement de plus de 300 hectares à la ZAC Panda.
L'objet de la visite du ministre Papou, c'était surtout de pouvoir avoir l'occasion de lui montrer une opération qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années et qui a su accueillir en moins de 15 ans plus de 12 000 habitants, plus de 300 entreprises. et sur site près de 2500 à 3000 personnes qui travaillent sur Dembéa sur mer et dans les magasins, au Medipôle. Voilà. Donc c'est une opération un petit peu hors du commun, qui n'existe pas forcément même en métropole. Donc l'idée était de lui montrer que même en Nouvelle-Calédonie, on peut monter des projets de grande envergure dans le respect de l'environnement, qui est un des piliers principaux de l'opération, et dans la recherche d'un équilibre social qui est attendu sur ces opérations-là.
Et le membre du gouvernement, Vaimoa Muliava, a d'ores et déjà été invité à la prochaine visite du ministre Papou. Ça se passera aux îles Tonga. Il sera discuté notamment la mise en œuvre de la déclaration de Lagatoy visant à renforcer la coopération numérique dans le Pacifique.
Merci beaucoup Charlotte Kuhl. Son retour à l'actualité judiciaire à présent avec Gilles Ménage. Ce communiqué du procureur de la République qui vient de nous parvenir concernant donc de nouvelles des exactions produites dans les semaines précédentes.
Oui, dans le prolongement du communiqué d'Yves Dupas sur les affrontements survenus à Thiot le 15 août, le procureur de la République nous informe que le parquet a déféré ce jour un homme âgé de 57 ans dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Il lui reprochait des délits d'entrave à la libre circulation sur la voie publique, participation à un attroupement avec armes, en l'occurrence des pierres, et de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, le gendarme blessé au visage lors de la première scène par un jet de pierre. Examiné par un médecin légiste, la victime, un gendarme mobile âgé de 26 ans, atteint par une pierre au niveau de la bouche, juste sous la visière de protection, présente un traumatisme maxillofacial important qui justifie une incapacité totale de travail de plus d'une semaine. Lors de sa garde à vue, le mis en cause, identifié par les gendarmes comme l'auteur du caillassage, a contesté sa participation au fait reproché. Petit chef de la tribu de Saint-Michel, il a prétendu avoir eu un rôle modérateur auprès des jeunes lors des affrontements. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel le 19 août. Décision d'incarcération conforme aux réquisitions du parquet. S'agissant de l'état de santé de la personne blessée par un tir de riposte des gendarmes mobiles, elle a été atteinte par un projectile au niveau de l'abdomen. Le pronostic vital demeure réservé, indique le procureur de la République. Une incapacité totale de travail de 15 jours a été retenue à titre provisoire.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
La fête nationale indonésienne était relayée aujourd'hui au consulat général du pays installé à Nouméa. Les ressortissants indonésiens, mais aussi les représentants de la communauté calédonienne originaire d'Indonésie étaient conviés. Patrick Suryagunawan est le chargé des affaires diplomatiques publiques au consulat général d'Indonésie en Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, nous commémorons notre anniversaire, le 79e anniversaire de la République d'Indonésie. C'est un grand jour qui est commémoré par tous nos concitoyens présents en Nouvelle-Calédonie. Nous avons une grande présence. Nous avons été ici depuis des centaines d'années. Et puis, nous avons aussi contribué à l'économie, au développement social de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un grand honneur aussi de pouvoir commémorer cette jour importante ici à Nouméa.
Plus d'une centaine d'invités étaient présents ce matin au consulat général d'Indonésie. Toujours à Nouméa, un air de Corée du Sud avec la seconde édition du K-Pop Day organisée aujourd'hui pour célébrer ce genre musical. Ça se passait au Rex et de nombreux fans étaient présents sur place, Charlotte Coulson.
Oui, plus de 150 personnes présentes, soit trois fois plus que l'édition de l'année passée. Un succès pour cette journée célébrant un genre musical qui se répand chez les jeunes et sur le territoire. L'association Kourou Kourou Team a organisé l'événement en collaboration avec le Rex. Leur but, rassembler et faire connaître la K-pop, comme l'explique Jérémy, l'un des organisateurs de l'événement.
Nous avons organisé le K-pop Day 2024. L'objectif étant de rassembler les fans de la culture coréenne, que ce soit le film, les dramas, mais surtout la musique. Plus que ça, ça permet aussi de découvrir des gens qui viennent du Nord. Il y en a qui se déplacent de la foi pour faire ça. On sait qu'il y a aussi des gens sur les îles qui écoutent. Mais vu que c'est une niche, les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a d'autres groupes qui organisent ce genre de choses. Donc nous, notre but, c'est de rassembler et de fédérer. Donc ça a dépassé nos attentes. On s'attendait à 50 personnes. On a presque triplé le public et l'audience. Donc c'est vraiment agréable. Et puis je suis sûr, si vous interviewez d'autres personnes, ça va être unanime. Ils sont très contents de pouvoir sortir et voir ça.
Effectivement, les personnes présentes sur place étaient toutes satisfaites des activités. Entre les cours de danse et les blind tests, l'objectif qui était celui de rassembler a clairement été atteint.
C'était vraiment parfait. Les organisateurs, ils ont tout géré. Les danseurs, ils ont... tout était parfait. C'était vraiment bien. Moi aussi, j'aime la K-pop. Moi, quand j'étais au lycée, ben, y avait quand même des gens qui écoutaient, mais on était rares à écouter.
Il y a en ce moment une nouvelle tendance K-pop que je découvre. Et donc, ça fait 2 ans que je me suis mise. Et voilà, j'essaie un peu de découvrir. J'ai vu cette annonce et je me suis dit, ben, pourquoi pas aller découvrir. C'est génial parce qu'on retrouve un petit peu une partie de la Corée du Sud et c'est vraiment génial de se retrouver parce que je pensais vraiment être la seule ici en Calédonie. Et finalement, il y a pas mal de personnes qui sont abonnées à ça, hein, K-pop.
Un événement organisé par l'association Kourou Kourou Team qui promeut la culture asiatique en Nouvelle-Calédonie.
Merci beaucoup. Il est 18h passé de 1 minute après la publicité. Nous passerons en revue l'actualité nationale et dans le monde et notamment la rencontre des premiers ministres australiens et néo-zélandais.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite du journal, Michael Juneski.
L'actualité dans la région Pacifique. Après avoir rencontré son homologue australien Anthony Albanese, le premier ministre néo-zélandais Chris Luxon a déclaré que les relations trans-Tasman étaient de très bonne qualité. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Chris Luxon a estimé que ces relations, je le cite, sont plus fortes que jamais. Sa visite à Canberra, qu'il a qualifié de « fructueuse », lui a permis d'aborder avec Anthony Albanese certains des grands thèmes qui symbolisent l'union australo-kiwi. Dans la déclaration commune qui a suivi leur débat, les deux premiers ministres ont convenu de faire davantage encore pour que l'alliance trans-Tasman reste adaptée au contexte moderne. Ils ont aussi estimé que le renforcement de l'intégration économique des deux pays est au cœur de nos préoccupations. Ils se sont également engagés à poursuivre leur travail commun en faveur des priorités du Pacifique, dont ils rencontreront les dirigeants politiques en fin de mois lors du sommet de Nuku'alofa. En parallèle, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, et son homologue kiwi, Judith Collins, ont convenu de travailler plus étroitement afin d'intégrer les forces armées des deux pays. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À l'international, les États-Unis poursuivent leur médiation pour un véritable cessez-le-feu à Gaza. Après 2 jours de discussions à Doha, au Qatar, aucun accord n'a été annoncé, malgré la présentation d'une version remaniée du plan soumis par Washington lors des précédentes négociations. Le Hamas a refusé de participer au dialogue pour chercher cet accord de paix. Après 900 jours de guerre depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, il n'y a donc toujours pas de cessez-le-feu. Maxime Gondelot pour Europe 1.
D'après Joe Biden, Israël et le Hamas n'ont jamais été aussi proches d'un accord. Le président américain exhorte tous les acteurs au Moyen-Orient à ne pas saper les efforts en cours. Il ajoute que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend aujourd'hui même en Israël pour essayer de contenir toute nouvelle escalade du conflit. L'heure est donc à l'optimisme du côté américain. Cependant, le Hamas dit rejeter les nouvelles conditions d'Israël dans la proposition des médiateurs. Sous le parrainage américain, égyptien et qatari, ces négociations visent à obtenir un cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages toujours aux mains du mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Les négociations se poursuivront la semaine prochaine au Caire.
Maxime Grondelot pour Europe 1. En métropole, comment débloquer l'Assemblée nationale? C'est la question que doivent tenter de résoudre Emmanuel Macron et les chefs de parti vendredi prochain à l'Élysée. Le président de la République a convié tous les leaders des groupes parlementaires à un dîner pour avancer vers une majorité plus large et la plus stable possible. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a déjà émis l'hypothèse de s'y présenter accompagné de Lucie Castet, désignée candidate à Matignon par le NFP. Écoutez le député insoumis François Piquemal.
Il était temps qu'il se réveille. Je ne sais pas ce qu'attend le président par une série d'échanges. Par contre, je sais ce que nous proposerons. Le premier, c'est lui faire part de la situation sociale qui ne s'est pas améliorée depuis la dissolution. Le second, c'est comment mettre en place un gouvernement du nouveau Front populaire. Nous avons une première ministre prête à gouverner. Donc on va essayer surtout de le ramener à la raison d'une certaine manière, ou du moins qu'il entende raison. Et il faut espérer que ses partisans puissent aussi le faire changer d'avis, pourquoi pas.
Et d'après l'entourage du président de la République, Emmanuel Macron n'est pas opposé à la candidature de Lucie Castet au poste de Première ministre. Toujours en métropole, ce drame en marge d'un spectacle de la patrouille de France. Un homme est mort en pilotant un petit avion datant des années 50. L'engin s'est abîmé en pleine mer. Récit des faits avec Mathieu Prior d'Europe 1.
Un choc et des spectateurs abasourdis comme marins venus avec sa famille. Ils étaient à 200 mètres de l'impact.
Il y a eu de la stupeur tout de suite. On a vu les secours arriver en moins d'une minute. Toutes les personnes qui étaient sur des bateaux en fait, se sont écartées pour laisser les secours travailler. On remercie juste que ce ne soit pas plus tragique s'ils étaient écrasés plus loin sur la plage.
Les opérations de secours ont permis de retrouver rapidement le corps du pilote. Selon un membre du Centre des hautes études militaires, la victime serait un ancien pilote de chasse de 65 ans. Il aurait racheté l'appareil il y a une trentaine d'années. Le Fuga Magister était un avion utilisé par l'armée jusqu'en 1996 et est dépourvu de sièges éjectables. Alors qu'a-t-il pu arriver, le général Paloméros, ancien chef de l'état-major de l'armée de l'air?
Une hypothèse, un malaise, un blocage des commandes. Le pilote n'arrive pas, s'il est conscient, à piloter l'avion. Il s'agit d'un vieux réacteur. Ça avait été un problème de moteur, il aurait eu le temps de mettre les ailes à plat et puis même vous pouviez vous poser, quoi. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème de moteur.
Deux enquêtes sont ouvertes, l'une par le bureau d'enquête et d'analyse, l'autre par le parquet de Toulon. Elles devraient déterminer les causes de ce drame.
Mathieu Prior pour Europe 1. 18h, passé de 7 minutes, une dernière page de pub avant de voir tout le sport.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, du football, le PSG débute le championnat de France par une victoire face au Havre, 4-1. Après avoir été accroché par les Havrais, Paris a accéléré dans les 5 dernières minutes de la rencontre pour décrocher ce succès. La réaction de l'entraîneur parisien Luis Enrique.
Nous avons très bien débuté, nous avons marqué sur notre première occasion. Mais je pense que notre rythme était trop lent, trop tranquille. Nous avons alterné entre les temps forts et les temps faibles. C'était mieux avec l'entrée des remplaçants en deuxième période. C'était une belle victoire en terrain difficile, même si nous aurions pu avoir plus d'occasions.
La suite de cette première journée du championnat de France. Dès ce soir, on retrouvera l'Olympique de Marseille sur le terrain de Brest. Brest qui avait créé la surprise au dernier championnat en terminant à la troisième place. Coup d'envoi à 2h du matin. Puis à 4h, Lille se déplacera à Reims. Enfin, à 6h, l'AS Monaco croisera le fer avec Saint-Étienne qui retrouvera la Ligue 1 après 2 ans d'absence. Match à suivre à partir de 6h. Du rugby, le Championship, le tournoi des nations de l'hémisphère sud, 2e journée de compétition. Et les All Blacks, tenants du titre, font face en ce moment même aux Pumas argentins. Le coup d'envoi du match a été donné à 18h05. L'autre rencontre opposera les Springboks sud-africains aux Australiens sur le terrain des Wallabies à partir de 20h55. Du cyclisme, la suite du Tour de France féminin. Avant-dernière étape ce soir à partir de 19h50, 166 km jusqu'au Grand Bornand. La Française Cédrine Kerbaol, après avoir signé la première victoire d'étape tricolore, est deuxième du classement général. Elle est à 16 secondes de la Polonaise Katarzyna Niewimdoma qui roule toujours avec le maillot jaune. En MotoGP, les pilotes sont en Grand Prix d'Autriche ce week-end. Francesco Bagnaia a déjà dominé les essais libres. Qualification et sprint race à suivre ce soir. Le Grand Prix demain soir, départ à 23h pour nous. Et puis, un mot de golf aux États-Unis avec la FedEx Cup qui se poursuit sur les greens de St. Jude et le tournoi pour les 70 meilleurs joueurs du classement FedEx. Le Français Mathieu Pavon figure pour le moment à la 33e place du tournoi alors que Victor Pérez est à la 42e place.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraï, c'est le 99.
Le sport en Calédonie, c'est toujours du golf, mais à la mode, broussarde. Au domaine de Deva, le tournoi des broussards se jouait dès 9h ce matin dans la bonne humeur, avec un thème pour des joueuses et des joueurs costumés à cette occasion. Écoutez Tony Raillard, il est l'organisateur de ce rendez-vous.
C'est un peu la reprise des compétitions sur le golf de Deva. J'ai créé cette compétition avec une formule très conviviale. Cela était convenu un petit dress code, donc le dress code cowboy cowgirl. Tout le monde a bien joué le jeu, donc ça donne un petit plus à la compétition. Tout le monde déguisé avec leur chapeau, leur chemise à carreaux, c'est beau à voir.
Et notez qu'une quarantaine de participants étaient en lice dans ce tournoi des broussards en tenue de cow-boy et cow-girl. Au classement brut, c'est l'équipe Émilie Picot, Flavia Manato, Corinne et Philippe Favier qui l'a emporté. Au classement net, c'est le quatuor Valérie et Jean-Louis Lechêne, Fabienne et Jean-Michel Maillard qui est arrivé en tête. Et puis, il y avait du football également avec un match amical de la sélection calédonienne sur le terrain de Païta. La sélection A de Nouvelle-Calédonie qui affrontait celle des moins de 19 ans. Une première rencontre de préparation en vue des qualifications à la prochaine Coupe du Monde Senior. La sélection A, menée par Johan Sindaner, s'est imposée 6-2. Ouverture du score d'Aiwegene, doublé de Toufele et Weirid et un dernier but d'Ipounesso. Les qualifications mondiales se joueront à partir d'octobre contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, puis les Fidji. 18h12, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions météo, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous. Eh bien, pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, quelques nuages issus du relief déborderont sur l'ouest en début de nuit, puis le ciel se dégagera. Sur l'est, le ciel restera passagèrement nuageux et quelques ondées seront possibles. Le vent sera souvent variable faible sur l'est et l'ouest. Il sera de nord-est entre 5 et 10 nœuds au Loyauté et atteindra les 10 à 15 nœuds aux pointes nord et sud de la Grande Terre. Les températures de la nuit continueront de monter et deviendront généralement comprises entre 20 et 22 degrés. Demain matin maintenant, des nuages persisteront sur l'est et au Loyauté. Ils donneront des averses faibles et intermittentes. Ailleurs, le soleil dominera. Le vent de nord à nord-est soufflera autour des 10 nœuds, aux pointes nord et sud et l'île des Pins, ainsi qu'au débouché des vallées de la côte ouest. Et ailleurs, il restera le plus souvent variable faible.